Radio Foot International, Marie-Amélie Mott.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Café des Sports. Comme chaque vendredi, vous pouvez nous écouter à la radio ou nous suivre en direct sur la page Facebook de Radio Foot International. Annie Gasnier n'est pas là aujourd'hui car elle s'est envolée pour Douala, J-1 avant le début du championnat d'Afrique des Nations au Cameroun. Toute l'équipe de Radio Foot sera sur place. Match d'ouverture demain entre le pays hôte et le Zimbabwe. On va évidemment en parler. Hugo Moissonnier sera en direct de Yaoundé pour nous donner les toutes dernières nouvelles en provenance du Cameroun. Dimanche, c'est jour de derby en Angleterre, Liverpool-Manchester United, duel au sommet entre le leader mancunien et son dauphin. United en pleine forme en ce moment, porté par Bruno Fernandes et Paul Pogba, alors que Liverpool marque le pas. Qu'arrive-t-il au champion en titre? On en discutera tout à l'heure. Et puis on terminera avec l'affiche de la Supercoupe d'Espagne qu'on connaît désormais, le FC Barcelone face à l'Athletic Bilbao. Les Basques ont battu hier le Real Madrid 2-1. Une défaite qui a dû agacer Rémi Nguno, qu'on attend pour l'instant. Et Xavier Barré, vous êtes là, vous êtes à l'heure.
Oui, bonjour Marie-Amélie. Oui, je pense que Rémi Nguno est encore en train de ronger son frein avec sa défaite, mais il va falloir qu'il le lâche pour nous rejoindre.
Ah, mon petit doigt me dit qu'il est en train d'arriver. Bonjour Alejandro Valente, notre réfé, vous êtes là vous aussi.
Bonjour Marie-Amélie, bonjour à tous.
Rémi, vous êtes en retard, on vous a attendu, vous m'avez fait peur.
Oui, vous savez, un peu aujourd'hui, comme l'éditeur du Real Madrid. Vous avez oublié quelque chose. Là, parce que c'est mon anniversaire, c'est la fête de Rémi. Et salut à Patricia, là aussi de Canal 2 au Cameroun, cette belle chaîne. Elle m'a souhaité joyeux anniversaire aujourd'hui. Je suis content. À vous aussi.
Bon anniversaire, Rémi.
Joyeux anniversaire, Rémi.
Merci.
Il est excusé,
évidemment. Allez, le Café des Sports, c'est parti. Et on commence avec un petit message du trio de départ habituel.
Salut les amis, salut Radio Foot, direction Douala pour le CHAN. Trois émissions, le lundi, le mardi et le jeudi. Toute l'équipe est dans l'avion. Maestro Salerno à la réalisation, votre serviteur. Je vais quand même vérifier si Annie est là, ça serait dommage. Bon, oui Annie. Je l'ai trouvée. Ça tombe bien parce que sans elle, ça aurait été compliqué. Annie ? Radio Foot à Douala, c'est
parti. On décolle. Enfin, apparemment, on va décoller. On espère en tout cas.
Voilà, Radio Foot, c'est parti.
David Pinzel avec Annie Gasnier et Laurent Salerno. Donc ils sont actuellement dans l'avion pour le Cameroun et vous les retrouverez lundi aux manettes de Radio Foot. Le Cameroun qui accueille donc le 6e championnat d'Afrique des Nations à partir de demain jusqu'au 7 février. 4 groupes de 4 équipes. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale qui commenceront le 30 janvier. Et on part tout de suite à Yaoundé retrouver Hugo Moissonnier du service des sports de RFI. Bonjour Hugo.
Bonjour Marie-Amélie, bonjour à tous. Est-ce Hugo, que vous m'entendez?
Oui, on vous entend très bien et on vous voit aussi sur le Facebook Live. Hugo, vous êtes arrivé hier soir à Yaoundé. Comment est l'ambiance sur place? Est-ce qu'on sent qu'on est à la veille du début du CHAN?
Alors, je ne vais pas vous mentir, le CHAN, il est un tout petit peu éclipsé par l'anniversaire de Rémi Nguno à Yaoundé. Hein. Il est prévu sur le boulevard du 20 mai, quand à l'arrivée d'Annie Gasnier du côté de Douala. C'est compliqué pour le CHAN de se faire une place vu de tous ces événements interplanétaires. Alors, plus sérieusement, je vais vous mentir un petit peu. Je vous disais que des affiches annonçant le championnat d'Afrique des Nations sont placardées sur tous les murs de Yaoundé, encore que n'est pas arpenté de longue marge toutes les rues de la ville, mais on ne sait pas forcément un engouement exceptionnel, et c'est un peu confirmé par les personnes qui vivent ici, avec lesquelles on a pu s'entretenir. L'engouement, il est assez limité, ça tient peut-être aussi au résultat de la sélection camerounaise d'après, mais on en parlera peut-être un peu plus tard. En fait, l'engouement, il est peut-être des journalistes, hein, clairement, ils sont beaucoup à s'intéresser à ça. Avant CHAN, pas loin de moi, ils sont en train de passer des tests Covid pour pouvoir accéder au stade pour le match d'ouverture. Et puis, l'engouement est fort du côté des autorités, des dirigeants du sport et du football en particulier. J'ai pu me soutenir le président de la Fédération avec le ministre. Il serait réjouissent de voir.
Hugo, on est en train de vous perdre. Donc, je pense qu'on va vous retrouver dans quelques instants. Avant de retrouver Hugo, Xavier, le Chan, c'est la première grande compétition qu'organise le Cameroun depuis 1972. C'est un sacré événement pour le pays, à un an de la CAN en plus.
Bien sûr, c'est surtout en plus cette répétition de la CAN. Et on sait qu'on en a souvent parlé dans cette émission. Et Rémi n'a pas ménagé d'ailleurs ses compatriotes pour dire que le Cameroun n'avait pas été au niveau pour organiser la compétition qui lui était promise il y a 2 ans. Là, ils sont au rendez-vous pour organiser le CHAN et la CAN. Et moi, je trouve ça formidable parce qu'on va avoir, en l'espace de quelques mois, les footballeurs qui évoluent sur le continent africain et ensuite les stars. Et donc, tout est parfaitement coordonné maintenant pour qu'il y ait un enchaînement de réussite, puisqu'il y a eu du temps supplémentaire pour finir les travaux, pour finir les stades. Il y a cette répétition avec les joueurs qui évoluent sur le continent africain, et il y aura donc le grand rendez-vous qu'on attend, la CAN l'an prochain. Donc, l'an prochain. Donc ça, ce sera aussi un événement formidable.
Oui, événement formidable qui suscitera peut-être un peu plus d'engouement, parce que Hugo nous disait que l'ambiance là-bas était encore assez calme. Hugo Moissonnier, qu'on a retrouvé. C'est important de préciser qu'il y aura quand même du public dans les stades à Yaoundé, à Douala et à Limbé.
Oui, tout à fait. Et ça fait la fierté, je vous le disais, des dirigeants du football et du sport camerounais. Ils se réjouissent d'accueillir le premier grand tournoi de football, pas seulement en Afrique, mais au niveau international, en tout cas, à se dérouler selon une configuration classique, à savoir dans un seul pays, hein, parce que je mets un peu de côté la Ligue des Nations en Europe. Donc ils se réjouissent d'accueillir un grand tournoi de football malgré la crise sanitaire. Et ils se réjouissent d'accueillir du public en tribune. Ça, forcément, c'est une curiosité, et notamment en Europe. Vu les dégâts de la pandémie. Au niveau de l'accueil du public en tribune, ce sera 25% de la capacité de chaque stade sur les premiers matchs et 50% pour la fin du tournoi, avec logiquement un protocole sanitaire assez fort. On peut se questionner. Le message officiel, c'est que le protocole sera suffisant. Après, je ne vais pas vous mentir, de ce que j'ai vu, le respect, l'application des mesures barrières dans la rue ou dans les lieux de rassemblement, marché, café, bar, comme le port du masque, la distanciation physique, tout ça n'est pas extrêmement rigoureusement respecté, mais on nous promet un protocole sanitaire efficace dans le cadre de l'accueil du public pour les matchs du championnat d'Afrique des Nations.
Bon, vous, Hugo, je vous fais confiance pour respecter le protocole sanitaire, évidemment. Je rappelle que le CHAN est réservé aux joueurs qui évoluent dans leur pays. Est-ce que le niveau de la compétition va être particulièrement relevé cette année ?
Alors la question, elle est de nouveau liée à la pandémie, puisque des championnats sont arrêtés, n'ont pas repris, notamment le championnat camerounais. Alors il n'y a pas que la pandémie, aussi des imbroglios, on va dire, d'ordre institutionnel. Donc on a des joueurs locaux qui quelque part vont enfin profiter d'une lumière, celle du CHAN, et en même temps le niveau, il est un peu incertain, parce que tout le monde n'est pas au même niveau de préparation et de rythme. Donc sur le niveau général, on s'inquiète un peu, et particulièrement au Cameroun, tout simplement parce que l'équipe nationale, l'équipe A', en tout cas, malgré la présence d'un champion d'Afrique, vainqueur de la CAN en 2017, Jacques Zoua, les résultats en préparation, ils ont été catastrophiques. Donc on s'inquiète du niveau des Lions Indomptables, et ça aurait d'ailleurs un impact forcément sur l'engouement populaire au Cameroun. Après, pour les favoris, mais je vais vous laisser peut-être en discuter entre vous, on imagine bien que le Maroc, qui avait largement dominé l'édition 2018 à la maison, pourrait remettre ça, avec toujours Ayoub El Kaabi, le meilleur buteur de la précédente édition. On peut penser à la République démocratique du Congo, hein, qui est devant au palmarès du CHAN avec 2 victoires, et qui retrouve son ancien sélectionneur Florent Ibengue, vainqueur en 2016. On peut penser à l'Ouganda, on peut peut-être penser à la Libye, l'invité surprise qui remplace la Tunisie un peu au pied levé, et qui avait, la Libye, remporté un peu la surprise générale, ce CHAN en 2014, malgré la une situation en termes de championnat national qui est très 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 compliquée, et ce depuis plusieurs années, pour des questions sécuritaires bien évidemment.
On va continuer à parler de tout ça dans Radio Foot, évidemment. Merci beaucoup, Hugo Moissonnier, et à très bientôt. Alejandro, Hugo le rappelait, le Cameroun n'a effectivement pas très bien réussi son tournoi de préparation. Les Camerounais auront la pression d'entrer demain face au Zimbabwe pour le match d'ouverture.
Oui, c'est toujours difficile quand on organise une compétition de disputer les matchs d'ouverture. D'ailleurs, la FIFA a décidé de plus faire jouer les matchs d'ouverture aux pays organisateurs depuis quelques années, parce que souvent c'est toujours un peu compliqué, parce qu'on a la pression, on a envie que ça réussisse, on a envie de bien lancer sa compétition, et malheureusement souvent les nerfs prennent le pas sur les talents. Donc on va voir comment les Camerounais vont gérer ça. En tout cas, c'est un plaisir de retrouver les Cameroun au cœur du football africain, parce que pour les gens de ma génération, les Cameroun étaient quand même la référence africaine. Je suis bien placé pour en parler, puisque je me rappelle de ce fameux Cameroun-Argentine en 1990.
Rémi Ngounou, c'est évidemment un plaisir particulièrement pour vous aussi de voir ce chaîne débuter demain.
Oui, c'est quelque chose qui est quand même, on peut dire, une bonne nouvelle, dans la mesure où ça relance le sport en Afrique. Bien évidemment, je vois que le Cameroun est donné en tirer par rapport à ses résultats, mais il faut aussi se dire que c'est quand le Cameroun fait de mauvaises préparations, enfin, quand il n'a pas de très très bons résultats, qui peut surprendre, et surtout qu'il est à domicile. Et je crois aussi que avec ce qu'il y a eu comme la pandémie, ce qu'il y a eu comme le mini Chan, c'est-à-dire qui a été organisé avant le vrai Chan qui commence demain, eh bien le Cameroun a quand même réussi à faire un peu de préparation, et je crois que il pourrait ne pas décevoir. Mais moi, la seule inquiétude qui me concerne, c'est bel et bien sur le plan sécuritaire, parce que je n'ai cessé de le répéter. Il faudrait pas que les autorités camerounaises lâchent, parce que nous savons quand même que les zones du sud-ouest et nord-ouest anglophones sont en guerre. Et on a vu, justement, à la veille de ce chan-là, on a vu juste à côté du stade des engins qui ont pris du feu, qui ont été incendiés, et surtout que les séparatistes anglophones ne veulent pas voir la compétition de ce côté-là. Or, ce côté-là, il y a la Zambie, il y a la Namibie, il y a la Tanzanie, il y a la Guinée qui sont logés dans cette enceinte. Donc, il faudrait que les autorités camerounaises fassent une bonne répétition. Moi, j'aurais souhaité que cela soit délocalisé de ce côté-là, dans la mesure où le Cameroun peut quand même avoir des infrastructures. On a eu sérieusement du temps pour préparer ces compétitions-là. Ça, oui. Mais voir aujourd'hui que le stade Paul Biya, qui devrait accueillir le match d'ouverture, n'est pas prêt, alors que la première pierre a été posée en 2008 et que ce stade devait accueillir la compétition en 2019, c'est-à-dire que la CAN, et Constant Omari était venu ici à RFI me contredire lorsque je lui disais, je ne vois pas les infrastructures terminées. Il me disait, c'est terminé à 99%. Aujourd'hui, il me donne raison. Nous sommes en 2021. Le stade qui devait servir d'ouverture pour le match, la finale et tout, n'est pas là. Et on se retrouve. Je n'aimerais pas que ce qui s'est passé à Cabinda en 2010 arrive au Cameroun.
Le match d'ouverture qui aura lieu au stade Amadou à Idjou à Yaoundé. Donc le Cameroun dans le groupe A avec le Mali et le Burkina Faso, je le rappelle. Et Hugo nous le disait, il faudra surveiller également la RDC, nation la plus titrée du CHAN, deux sacres en 2009 et 2016. On attend beaucoup, Xavier, du nouveau sélectionneur Florent Ibenge.
Oui, qui revient aux manettes en fait, quelques mois après les avoir, moins de deux ans après les avoir quittés. C'est un homme qui connaît parfaitement le poste, puisqu'il l'a occupé pendant de nombreuses années. Il est aussi entraîneur de club là-bas. Ce qu'on peut constater quand on regarde le palmarès de cette compétition, vous faisiez allusion donc à la RDC, la République démocratique du Congo, qui l'a gagné deux fois, la Tunisie et le Maroc l'ont également remporté chacun une fois, et la Libye une fois. C'est que ces pays qui, pour le moment, ont réussi à s'imposer dans cette compétition sont des pays qui ont des championnats relativement bien organisés, donc qui peuvent garder un certain nombre de joueurs, et ces joueurs-là peuvent régulièrement s'améliorer en jouant les uns contre les autres, et puis en jouant aussi les Coupes d'Afrique. C'est vrai que dans d'autres pays, on a fait allusion au Cameroun notamment, et les championnats sont suspendus, parfois même carrément à l'arrêt, et donc c'est très compliqué pour les joueurs locaux de s'entraîner. Et du coup, les sélectionneurs vont chercher des joueurs où ? Ben, à l'étranger, et par exemple pour ce qui est du Sénégal notamment, essentiellement en Europe. Donc ces joueurs-là ne peuvent pas participer au CHAN, et ces pays-là ne peuvent pas être compétitifs pour le CHAN. C'est pour ça qu'effectivement la RDC, avec un championnat relativement bien organisé et des clubs très compétitifs, comme le V-Club ou le TP Mazembe qui jouent en Ligue des Champions d'Afrique, sont des pays qui sont a priori favorisés. Mais moi, je pense qu'il faut aussi regarder vers l'Afrique francophone, l'Afrique australe plutôt, l'Afrique anglophone, pardon, l'Afrique australe, parce que là, on trouve des sélections où il y a énormément de joueurs qui évoluent, soit dans les championnats de Tanzanie ou d'Afrique du Sud surtout, et donc des joueurs qui sont sélectionnables aussi pour cette compétition, qui sont professionnels et qui eux aussi sont habitués à jouer dans des compétitions bien organisées.
Et on pourrait ajouter à cette liste le Congo Brazza. On a quelques supporters qui s'expriment sur la page Facebook live de l'émission du Café des Sports, et notamment Frédéric Malongo. Et il faut rappeler que le Congo Brazzaville est la dernière équipe à avoir gagné une grande compétition au Cameroun, puisqu'en 1972, on a parlé tout à l'heure, c'est le Congo qui a été sacré, n'en déplaise à Rémi.
Ah oui, c'est vrai, c'était avec le but, ils avaient éliminé d'ailleurs le Cameroun sur un but de Bemba Testaou.
Et match entre la RDC et le Congo
dimanche
à Douala. En tout cas, on a hâte que ce CHAN commence. Donc, je le rappelle, match d'ouverture demain entre le Cameroun et le Zimbabwe. Coup d'envoi à 17h, heure locale. Et RFI vous fera évidemment vivre la compétition dès ce week-end, et notamment dans Mondial Sport présenté par Thomas de Saint-Léger, samedi et dimanche à 21h30 en temps universel. Et maintenant, il est temps de partir en Angleterre.
This game quite matches this. No game. Rashford. Still Rashford! Electrifying goal! Rashford! What a dream this is for Marcus Rashford. He scored two against Liverpool. Another unerring finish. And what a start for Manchester United in this big game at Old Trafford. Liverpool's corner taken by Alexander-Arnold, and in by Virgil van Dijk. It's as simple as that for Liverpool. And Salah for Liverpool! Have a little bit of that!
Liverpool-Manchester United, c'est l'affiche de la 19e journée de Premier League, dimanche 17 janvier, enfin ce dimanche. Le derby d'Angleterre, le match entre les deux plus grands clubs du pays, les deux clubs les plus titrés, en tout cas 20 sacres de champion pour United contre 19 pour Liverpool. Bon, ces dernières années, le derby avait un petit peu perdu de sa saveur, mais cette saison, il ressemble au match de l'année. United compte 3 points d'avance sur son dauphin Liverpool. Cela faisait plus de 3 ans qu'on n'avait pas vu les Red Devils tout en haut de la Premier League. Xavier, l'équipe de Ole Gunnar Solskjaer a donc l'occasion de s'envoler en tête du classement ce week-end. Comment est-ce qu'ils doivent aborder la rencontre ?
Ils doivent l'aborder avec leurs valeurs sûres, c'est-à-dire ce sur quoi ils s'appuient depuis plusieurs semaines, voire dire plusieurs mois maintenant, quand ils sont face à des équipes qui jouent, qui prennent l'initiative du jeu, ce qui est le cas de Liverpool désormais. Donc, c'est-à-dire s'arc-bouter en défense, bien...
Ce qui n'est pas leur point fort.
Oui, mais bien quadriller le terrain et procéder en contre en s'appuyant sur les flèches comme Martial et Rashford. Et pour le moment, ça marche très bien, puisque autant ils ont du mal quand ils doivent prendre l'initiative du jeu face à des équipes recroquevillées, autant quand ils sont face à Manchester City, quand ils sont face à des équipes qui jouent comme également Liverpool, eh bien, ils ont la capacité de tenir, de résister et de procéder en contre avec ces attaquants très talentueux.
United n'a plus battu Liverpool depuis bientôt 3 ans, donc une victoire constituerait une sacrée performance. Mentalement, il y a un déclic à trouver chez les Red Devils ?
Je pense que les déclics, ils l'ont déjà trouvé, parce que la victoire face à Burnley, la possibilité d'arriver à un leader en Anfield constitue déjà un énorme atout pour cette équipe de Manchester United qui aujourd'hui est, je pense, en confiance. On a vu même un Pogba qui était un petit peu effacé ces derniers temps retrouver tout son brio dans ce match-là, marquer même un but. Donc je pense que tout est au vert du côté de Manchester United, et c'est l'occasion ou jamais d'aller surprendre Liverpool à Anfield. Ça fait longtemps qu'ils l'ont pas fait.
Ouais, et Paul Pogba qui affirmait aujourd'hui dans un entretien à Sky Sports son envie de concurrencer Liverpool dans la course au titre. Rémi, Pogba a raison d'afficher ses ambitions aussi clairement.
Oui, parce que il faut quand même se dire que Liverpool est en chute libre. Il faut se dire que entre Liverpool et Manchester United l'année dernière, c'était 33 points d'écart. Parce que Liverpool est devenu champion avec 18 points d'avance sur Manchester City. Et là, on voit que aujourd'hui, cette équipe de Liverpool ne répond pas à toutes ces attentes-là. Parce que quand vous essayez de regarder justement une équipe de Liverpool qui d'ailleurs devant Southampton a dû à souffrir et surtout qui pendant le Boxing Day nous a montré quand même qu'elle était déjà essoufflée. Et j'ai bien peur que le scénario de l'année dernière où ils étaient sur des rotules dans les derniers matchs, ne se produisent un peu trop vite. Et bien sûr aussi, quand on essaie de voir, ils vont jouer chez eux. C'est vrai que la dernière défaite à domicile, c'était contre Crystal Palace, comme vous l'avez répété en 2017. Mais il faut rappeler que Manchester United, depuis le début de la saison, n'a pas perdu à l'extérieur en 8 matchs. C'est 7 victoires et 1 nul.
Ouais, c'est la meilleure équipe de Premier League à l'extérieur.
Et Liverpool a de sérieux ennuis en défense. Il faut quand même se dire, vous avez d'ailleurs eu à rattraper Xavier Barret tout de suite en lui disant que c'était pas exactement aussi ça, que ce soit du côté de Manchester United ou du côté de Liverpool, mais du côté de Liverpool, c'est encore beaucoup plus grave.
Le problème du côté de Liverpool, c'est qu'il manque Van Dijk, Gomez et Matip. La défense est décimée du côté de Liverpool.
C'est deux-là qui faisaient la véritable force de Liverpool. C'est cette base-là, parce que vous voyez que a toujours voulu privilégier le côté défensif. Or là, il se retrouve avec la même défense que le 16e. Même Arsenal, au niveau de la défense, est devant Liverpool. Vous n'avez pas une défense, je vous dis, il y a un proverbe africain qui dit « La louche ne vaut rien sans le bout sans son bout. » Donc aujourd'hui, si on n'a pas...
Quand même.
Si aujourd'hui, on a Liverpool, qui n'a pas Van Dijk, qui n'a pas une défense correctement, qui sait se regrouper, cette équipe de Liverpool...
En termes de buts encaissés, Liverpool est meilleur que Manchester United.
La louche ne vaut rien, surtout s'il n'y a pas le récipient pour la prendre, parce que le manche, on peut toujours l'improviser. Avec les doigts, là, comme ça. Il faut juste que l'eau soit pas trop chaude. Voilà, donc... Non. Je pense que tu t'es inversé le proverbe.
Mais dans ce cas-là, monsieur, tu prends l'assiette, au lieu de prendre la louche, mais sans son manche...
C'est vrai que quand Klopp est arrivé à Liverpool, qu'il a repris cette équipe, il a commencé par verrouiller la défense. Et ensuite, il a bâti une équipe qui était d'abord une équipe de contre, en s'appuyant sur la vitesse de Sané, de Mo Salah, et puis la sens tactique de Roberto Firmino. Et puis petit à petit, il est devenu une équipe vraiment tout terrain, qui prend le jeu à son compte, qui étouffe l'adversaire. Aujourd'hui, on peut pas dire que Liverpool soit une équipe de contre, contrairement à Manchester United. Donc je pense qu'effectivement, le problème de Liverpool aujourd'hui, et là on est d'accord, c'est que la plupart des défenseurs titulaires étant hors course, étant blessé, indisponible, il doit composer avec une défense qui n'est pas composée des titulaires, donc il y a moins de sérénité, moins de sécurité, et en continuant à jouer le même jeu, effectivement, s'expose plus fréquemment au contre des adversaires. Et là, dans ce contexte-là, je me dis que Manchester United, avec les flèches comme Rashford et Martial, a vraiment très beaucoup à jouer.
Et même aussi sur le plan offensif, vous voyez que vraiment, aligner une équipe, vous avez quand même Salah, Firmino... Vous avez encore Mané, et vous avez même Thiago Alcantara qui se projette. Et puis vous faites un match, deux matchs, vous cadrez une fois. Mais il y a un vrai problème sur le plan offensif du côté de Liverpool en ce moment.
C'est lié à ce manque de...
C'est tout de même Mo Salah qui est meilleur buteur du championnat actuellement.
Oui, je pense que c'est surtout lié à ce manque de sérénité défensive qui s'explique par ses très nombreuses absences. D'ailleurs, on spécule beaucoup sur l'arrivée d'un renfort pour intégrer cette défense de Liverpool. Mais on sait que même si Van Dijk s'était très vite imposé chez les Reds lorsqu'il est arrivé de Southampton, c'est compliqué de venir dans un collectif comme celui des Reds qui tourne normalement très bien. Il faut trouver sa place. Donc c'est même pas une assurance de recruter quelqu'un maintenant pour Liverpool.
Allez, rendre
sur Facebook Live, il y a quelques auditeurs, je suppose des supporters d'Arsenal qui sont pas contents avec Rémi qui dit qu'Arsenal est 16e alors qu'Arsenal est aujourd'hui 11e au classement. Donc
ils sont remontés.
Voilà. Non mais Arsenal qui va un tout petit peu mieux. On va continuer évidemment avec avec Liverpool Manchester United. Écoutez ce que Jurgen Klopp disait tout à l'heure en conférence de presse. L'entraîneur des Reds ne veut absolument pas se mettre la pression avant le match.
Gagner un match de foot et battre Manchester United, c'est suffisant en soi. C'est tout ce à quoi on doit penser. Ce n'est pas plus exceptionnel parce qu'ils sont premiers, ils ont leurs points, ils les méritent, on a les nôtres et la saison est loin d'être terminée. On n'est pas sans cesse en train de penser aux autres équipes, on essaie juste de gagner nos matchs. Et pour ça, on doit jouer à notre plus haut niveau, parce que Manchester United est fort. C'est un club qui l'a toujours été, et c'est tout.
Et Jurgen Klopp veut voir Liverpool à son plus haut niveau, mais est-ce que les Reds en sont capables en ce moment? C'est compliqué vu ce que vous nous disiez.
Oui, mais bon, ils ont quand même passé 4-1 à Aston Villa en Cup, donc ouais. Ils ont encore qui est une équipe qui marche bien, donc ils sont pas devenus nuls du jour au lendemain. Ça reste, je pense, l'équipe à battre avec Manchester City en Premier League. Voilà, maintenant ils sont face à un adversaire qui a retrouvé beaucoup de confiance, et c'est d'ailleurs plutôt réjouissant de voir que ce sommet du football anglais va concerner des équipes qui sont à nouveau en pleine possession de leurs moyens. Donc moi je me réjouis de voir, et surtout je pense que ça va être un vrai révélateur du potentiel du Liverpool actuel, qui est effectivement réduit par toutes ses absences, notamment en défense, et de ce Manchester United qui a retrouvé la confiance.
Alors le leader technique de Manchester, c'est incontestablement Bruno Fernandes. Aujourd'hui le Portugais a été élu joueur du mois de décembre en Première Ligue. C'est la quatrième fois qu'il reçoit ce titre pour l'année 2020. Donc. Et c'est un record, car jamais un joueur n'avait été élu joueur du mois à 4 reprises lors de la même année civile. 11 buts, 7 passes décisives en 17 matchs de Première Ligue pour Bruno Fernandes cette saison. C'est le meilleur meneur du championnat,
Leandro? Bah forcément, puisque les chiffres le prouvent. Après, c'est vrai qu'un bon meneur est un bon meneur quand on a des joueurs offensifs et qui sont disponibles et qui sont prêts à les suivre. Et aujourd'hui, Manchester United a quand même une certaine richesse à ce niveau-là. Et c'est peut-être la clé de cette réussite.
Tout dépend de ce qu'on entend par meneur. Parce que dans le registre du meneur pur, je pense que Kevin De Bruyne reste au-dessus de Bruno Fernandes. Mais dans sa capacité à être décisif, c'est-à-dire à être aussi buteur, Bruno Fernandes, il est incroyable, parce que vraiment, depuis son arrivée, il a transformé le jeu de Manchester United. C'est vraiment le chaînon manquant entre le milieu de terrain et l'attaque. C'est cette espèce d'attaquant décroché qui est toujours là à l'affût, qui fait la bonne passe. C'est un joueur extrêmement intéressant. Maintenant, il s'intègre aussi dans un collectif où il y a des joueurs de qualité, où Pogba revient, même s'il n'est pas toujours à son niveau, où il peut s'appuyer sur des attaquants de grand talent. Rashford, c'est très fort. Martial revient. Manchester United, ces dernières années...
Et Edinson Cavani, vous parlez des attaquants, Xavier Barré.
Bien sûr. Alors, Cavani, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est très vite intégré dans ce collectif. Et surtout, il apporte une arme supplémentaire lorsque Manchester United doit faire le jeu contre les petites équipes. Je pense que quand il sait jouer dans toutes les situations, compte tenu de son expérience, et on l'a vu au PSG, mais compte tenu de son âge, il a moins de vitesse quand même que Rashford et Martial. Je pense qu'il est moins tranchant lorsque Manchester United laisse venir l'adversaire, ce qui risque d'être le cas dimanche. Maintenant, quand il faut venir faire la différence face à Burnley, face à West Brom, face à des équipes qui sont arc-boutées en défense, là, il est extrêmement précieux parce qu'il se bat jusqu'à la dernière seconde, comme presque tous les Uruguayens.
En tout cas, c'est... Mais sauf qu'il n'est pas titulaire, il faut se le dire, parce que c'est vrai qu'il a joué... des bouts de match, il a fait 15 apparitions pour 4 buts, mais il est important dans le jeu de déviation. Et ça peut permettre aux flèches comme les Rashford de pouvoir profiter de ces matchs-là, de ces ballons-là. Et justement, c'est pour ça que j'ai dit, au niveau de la défense centrale de Manchester, de Liverpool, lorsqu'il va se retrouver, si jamais il joue devant Fabinho risque d'avoir de sérieux ennuis parce que il va le déranger et ça va permettre certainement aux autres de prendre des espaces.
En tout cas, il y a beaucoup d'auditeurs qui s'étonnent de voir Rémi et Xavier un peu trop d'accord aujourd'hui. Hein. C'est suspect, ça.
Je pense qu'au prochain sujet...
C'est parce que c'est l'anniversaire de Rémi. Xavier va être gentil avec lui. Bon, Liverpool, Manchester United, c'est donc dimanche...
C'est la fête des Rémi, quoi.
Ah ouais. Vous allez vous rattraper, je suis sûre. Donc oui, donc le derby d'Angleterre dimanche à 17h30. Et les deux équipes, je le précise, se retrouveront aussi lors du quatrième tour de la FA Cup, une semaine plus tard. Liverpool ira à Manchester.
C'est pas très loin. Hein.
Voilà.
C'est pour ça que c'est aussi un match aussi symbolique. C'est parce que c'est vraiment les deux grandes villes industrielles du nord de l'Angleterre et les supporters sont passionnés et c'est extraordinaire comme rencontre.
Bah on hâte, j'allais dire, on a hâte de le regarder. Ouais. Allez, on part en Espagne pour terminer.
Pour lancer dans la profondeur, Antoine Griezmann qui va centrer. Oh, c'est super, c'est magnifiquement construit. Ça bouge côté droit là-bas. Oria, ça va. Le contrer, peut-être pas la main de Frenkie de Jong. En tout cas, c'est ce qu'il réclame. Les joueurs de la Real Sociedad, ils ont été entendus. Il y aura pénalty. Mikel Oyarzabal face à Ter Stegen. Cette fois c'est terminé, la prolongation, pas de vainqueur à l'issue du temps réglementaire et de la prolongation, séance de tir au but. Le gardien allemand du FC Barcelone face à Dembélé, tout un temps énorme, dès le premier tir au but, il est déterminant Ter Stegen. Frenkie de Jong, on l'arrête. Mikel Oyarzabal et encore un miracle réalisé par Ter Stegen. Ousmane Dembélé, le contre-pied est parfait. Ter Stegen, oh, c'est Poto qui repousse la tentative de Jean Bautista. Miralem Pjanic, il était parti du bon côté Ramiro. Mikel Merino pour entretenir l'espoir. L'espoir est entretenu. Il y a une balle de finale pour Antoine Griezmann et tout le FC Barcelone. C'est manqué une nouvelle fois. Ça qui sera qualifié pour la finale de la Super Coupe d'Espagne. Il n'a pas tremblé le Belge. Le contre-pied, ça y est. Ils ont souffert, mais ils y sont parvenus les Barcelonais au bout de la séance de tir au but.
Et encore une occasion. Et l'ouverture du score, justement, pour l'Athletic Bilbao, la surprise avec ce but de Raúl García. Raúl García, l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid, face à Thibaut Courtois. Le doublé pour Raúl García, 2-0 désormais pour l'Athletic Bilbao face à Real Madrid. Oh, il faut la mettre tout de suite, Casemiro pour Karim Benzema. Oh, l'espoir qui renaît, non, en position de hors-jeu. Oh, il y a but. Voilà. Le but pour Karim Benzema, et il est important.
On va parler de la finale de la Supercoupe d'Espagne entre le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao dans un instant. Mais avant cela, juste un mot réfé. La finale de la Supercoupe va avoir lieu dimanche, alors que celle de la Coupe du Roi n'a pas eu lieu encore.
Eh oui, c'est un peu étonnant. C'est la première fois qu'on voit ça. Il faut rappeler que la Coupe du Roi avait eu un peu le même casting, puisqu'en demi-finale, on avait le Real Madrid et Barcelone face à des équipes basques. C'était un peu l'inverse. C'était que la Real Sociedad avait éliminé à l'époque le Real et Bilbao avait éliminé Barcelone. Donc la finale devait opposer la Real Sociedad Athletic Bilbao, deux clubs basques. Et les deux clubs se sont mis d'accord pour dire qu'ils ne veulent pas jouer sans public. C'est un derby qui va marquer un peu l'histoire. Ils refusent de la jouer sans public. Donc du coup, cette finale est repoussée sans cesse. Là, aujourd'hui, elle est programmée au mois d'avril, alors que la Coupe 2021, la Coupe d'Espagne 2021, c'est déjà bien avancé. Et du coup, on joue la Supercoupe alors qu'on n'a pas joué la Coupe du Roi. Heureusement, on n'a pas deux clubs basques face à face parce que sinon, ça aurait fait un peu confusion.
Heureusement, le Barça a été au rendez-vous pour éviter qu'on ait un derby basque en finale de cette Supercoupe alors qu'ils n'ont pas voulu jouer cette finale de Coupe. Ils n'ont pas souhaité la jouer. C'est pas que...
Bon, Bilbao qui en l'occurrence a battu hier le Real Madrid de 2-1, doublé de Raúl García en première mi-temps et ensuite Karim Benzema a réduit le score à la 73e minute, mais cela n'a pas suffi. Rémi, qu'est-ce qui est arrivé au Madrilène hier soir?
Mais il est arrivé ce qui arrive régulièrement à notre équipe, notre belle équipe de la Maison Blanche, c'est-à-dire que quand il s'agit du Barça, on atomise, quand il s'agit d'Atlético, on fouette, mais quand Cadix arrive, on tombe, quand Osasuna arrive, on plonge, et quand maintenant, mais c'est pas possible, c'est hallucinant. C'est-à-dire que c'est, franchement, c'est même honteux de voir ce qui se passe là, parce que à une certaine période, on s'est dit quand même que le Real Madrid, je l'écrivais, c'est quand même une équipe qui souffre d'une drôle d'épilepsie. C'est-à-dire que aujourd'hui c'est debout, demain c'est tombé. On ne sait jamais comment est-ce que ça va se terminer, parce que
hier en tout cas, ça a très mal commencé, très gros pressing des Basques en première mi-temps.
Mais il faut savoir que le Real Madrid n'a pas réussi la plupart de ses matchs en début de première mi-temps contre les équipes qui sont supposées être faibles. On dit quand même que c'est la 12e équipe de la Liga.
C'est des confiances.
Oui, 12e équipe de la Liga. Et on se retrouve là à une équipe qui avait quand même pris 22 buts et qui n'a marqué que 21. Mmh. On se retrouve à peiner à ne pas trouver de possibilités et surtout, quelle inefficacité offensive. Donc finalement aussi, on constate malheureusement, je vais être désagréable. J'avais mis beaucoup d'espoir sur Eden Hazard, mais c'était un hasard. Parce que finalement, on est dans un jeu de hasard. L'année dernière, il a marqué un seul but. Et depuis qu'il est revenu, le Real, j'attendais que voilà, enfin CR7 qui est revenu avec son numéro 7. Mais non, il n'est que CR7 sur l'ombre parce que immédiatement, on a toujours des défaites et des défaites et des défaites. Franchement, lorsqu'on voit le Real Madrid jouer, on n'a pas beaucoup d'espoir.
Xavier Marais.
Oui, c'est bon. Alors, il faut quand même préciser une chose, c'est que l'entraîneur de Bilbao, Marcelinho, qui avait œuvré avant à Valence et à Villarreal, est un bon entraîneur. Il vient de reprendre le club et on voit assez tout de suite l'effet de l'effet Marcelinho sur cette équipe basque qui effectivement avait réussi à une première partie de championnat assez décevante et qui là est en train de se reprendre. Mais c'est vrai que ce Real, en fait, ils ont joué que la deuxième mi-temps. Et c'est un peu la fable du lapin, de la tortue et du lapin, quoi. Ils se sont réveillés à la mi-temps, puis après ils avaient déjà deux buts de retard et ils ont failli y arriver. Benzema a marqué un but, mais un premier qui avait été refusé pour hors-jeu finalement accepté, un deuxième qui a été refusé pour un hors-jeu et donc non validé, et ils ont terminé avec cette élimination. C'est pas très grave, c'est que la Super Coupe d'Espagne, je vais être cohérent avec ce que je disais l'an dernier quand Barcelone avait été éliminé, c'est un tournoi qui a été monté pour des raisons business, hein. Il faut rappeler que la Fédération Espagnole a passé un deal avec l'Arabie Saoudite pour avoir beaucoup d'argent, pour amener normalement les 4 meilleures équipes espagnoles en Arabie Saoudite. Là, compte tenu de la situation sanitaire, on a organisé ça à la va-vite en Andalousie, d'ailleurs les Saoudiens n'étaient pas intéressés par avoir deux clubs basques, ils voulaient l'Atlético, et comme l'Atlético n'était pas qualifié, ça les intéressait moins, donc c'est bien pour le Barça qui est en crise, qui est avec une certaine manque de confiance de se qualifier pour cette finale et peut-être de gagner cette compétition, mais c'est pas très grave, je pense, dans l'immédiat pour
cette
compétition. Mais c'est une belle
compétition.
C'est une compétition. C'est trop grave pour nous. C'est trop grave pour nous parce que tu te rends compte que cette équipe du Real, on s'est quand même qualifié pour la Ligue des Champions, comme ça par hasard, à la dernière journée. Est-ce que tu te rends compte? Et que là, on n'est pas sûr d'aller avec la Liga. Et finalement, tu es très content que le Real réussisse l'exploit du Barça l'année dernière, saison blanche. Non, il fallait cette coupe-là. Il fallait tout y miser parce que ça peut être la seule coupe. Il y a un proverbe africain qui dit « Mieux vaut un petit poisson qu'un gros cafard ».
Je suis assez d'accord avec Rémi parce que
c'est pour ça qu'ils sont côte à côte.
Et je pense que la responsabilité des Zidane est quand même un peu mise en cause parce que Zidane, depuis plusieurs semaines déjà, joue toujours avec les mêmes joueurs. Il n'y a aucune rotation. Il a cessé de faire tourner son équipe. Les joueurs sont épuisés. On se rend compte que depuis quelques semaines, les joueurs s'étreignent. Il a fait jouer Sergio Ramos infiltré au genou alors qu'il était quand même en situation de faiblesse. Et aujourd'hui, les joueurs, je pense qu'ils n'en peuvent plus.
Mais le Real n'avait plus perdu depuis 9 matchs.
Il faut quand même, si vous regardez depuis le début de la saison, les équipes ont joué 25 matchs, c'est énorme.
Ouais.
Le Real en a déjà perdu 6, toutes compétitions confondues. Il fait une plus mauvaise saison que le Barça sur le plan comptable, alors que le Barça, on a dit qu'il était au fond du trou. Donc c'est quand même une situation qui est inquiétante pour l'avenir proche du Real Madrid. Uniquement un accident.
Ça, c'est pas c'est une situation générale, en fait. Cette Super Coupe d'Espagne, elle vient en plus. Mais les résultats, la performance décevante en phase de groupe de la Ligue des Champions, on l'a tous remarqué. Les résultats, effectivement, en dents de scie en championnat aussi. Même si ça allait mieux ces derniers temps, le Real, pour le moment, ne dégage pas la sérénité auquel on pourrait l'attendre compte tenu de la qualité de son effectif. Et je pense qu'effectivement, c'est lié à ce rajeunissement qui n'aboutit pas. Et c'est là où on attendait Zidane, effectivement, sur le banc du Real lorsqu'il est revenu, c'est-à-dire renouveler cet effectif. Et pour le moment, bah, c'est presque un échec. Je vais pas en rajouter sur Eden Hazard, mais bon, effectivement, il est pas dans le coup.
Longtemps blessé,
Jovic, ils l'ont renvoyé à Francfort.
60 millions!
Ouais.
Militao,
il est sur le banc.
260 millions d'euros, finalement, de pertes.
Ah bah, on est d'accord avec Rémi Ngono, même sur ce sujet.
Mais c'est pas possible.
Incroyable.
Mais on est en train de faire du bassin.
Mais justement,
je vous ai dit, je ne voulais pas être avec vous sur le plateau. Parce que ça contamine la médiocrité du bassin.
Avant de passer au carton rapidement, vous aviez pointé le manque de sérénité du Real en ce moment. Du côté du Barça, on a l'impression juste au contraire.
Oui, il faut pas s'emballer parce que on sent que c'est fragile. Et d'ailleurs, face à la Real Sociedad, Barcelone a beaucoup compté sur son gardien Ter Stegen pour s'en sortir. Donc Barcelone va mieux, c'est une équipe qui est plutôt en construction, donc ça prend plus de temps. On voit qu'on racle le fond du banc de remplaçants, on a pratiquement plus beaucoup de solutions. Messi blessé n'a pas joué contre la Real Sociedad, probablement il jouera pas la finale non plus d'après les nouvelles qui sont plutôt inquiétantes puisqu'il s'est pas entraîné aujourd'hui. Donc voilà, les Barça va mieux, mais c'est loin d'être.
Il va s'entraîner demain.
C'est loin d'être la fête.
Oui, heureusement, finalement, le Barça, quand il est dans cette situation, parfois il pioche dans son centre de formation et on s'aperçoit qu'il y a finalement de belles ressources encore qui sortent de la Masia. Bien sûr, Pedri, Ricky Puig, même s'il est rarement aligné, qui a marqué Ricky Puig, comme ils disent, qui a marqué le pénalty de la qualification. On a à Barcelone, grâce à ce centre de formation qui a été il y a 10 ans, qui a permis cette éclosion de toute une génération, on est peut-être à l'aube d'une nouvelle génération dorée.
Un mot des auditeurs qui nous.
Les auditeurs. Alors la semaine dernière, on en avait que pour la moustache de Xavier Barret. Aujourd'hui, on en a que pour l'anniversaire de Rémi Ngono. Alors ça part de tous les côtés et il y en a même quelqu'un qui s'appelle Bertrand et Jojomo qui veut vous inviter à manger un plat de coq. Alors je sais pas ce que c'est, mais il dit que vous savez.
J'en sais. Oh, c'est des légumes là avec un peu d'arachide, avec un peu d'huile de palme. C'est magnifique. Oh, Dieu, Seigneur.
On prendra un cours de cuisine plus tard. Maintenant il faut passer au carton.
Carton jaune.
Dur un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge
dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Et on commence tout de suite avec ceux de nos chers auditeurs.
Bonjour à Radio Foot. Moi c'est Diagardia Koulibaly depuis Mali, Bamako. J'aimerais donner un carton vert à l'ensemble de la famille des Radio Foot pour avoir choisi la couleur de notre drapeau national pour vos cartons, c'est-à-dire les verts, jaunes et les rouges. Merci.
Est-ce qu'il aime les Bouginchassa? Carton vert au Léopard de la RDC. Ils aient la chance d'aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils vont remporter la chaîne de cette année. Bonne chance au Léopard.
Salut, c'est Omar Moussa Tcham. Je suis de la Mauritanie, Nouakchott. Carton rouge Alvaro González pour son mauvais geste sur Neymar.
Bonjour à Tiofoot, c'est Daniel à Mambasa depuis la République démocratique du Congo. Je donne un carton jaune à Monsieur Javier Tebas pour sa grosseté qu'il a affichée contre le Real Madrid, surtout contre Zinedine Zidane après le match nul contre Osasuna. Et le discours de Zidane était correct. Merci.
Bonjour le Café de Foot, c'est Adoussein Lucan depuis Saint-Louis. Je donne carton vert à Marc-André Ter Stegen pour sa magnifique prestation hier face à la Real Sociedad. Merci.
Bonjour toute l'équipe de Radio Foot International. Moi, je suis Zoromé Ali depuis le Burkina Faso. J'ai un carton vert pour Marcus Rashford qui, malgré son jeune âge, continue de lutter pour l'alimentation des enfants en situation difficile. Que Dieu fasse qu'il réussisse la mission qu'il s'est assignée. Un autre carton vert à Ricky Puig qui continue de prouver à l'entraîneur du Barça qu'il mérite amplement sa place et que la seule personne capable de nuire à sa progression, c'est bien Koeman. Et merci bien à Radio Foot International. Excellente journée à vous.
Bonsoir Radio Foot International. Je suis Macky Diallo depuis Conakry. Je donne un carton vert à l'entraîneur de Manchester United qui a pu ramener le club à la tête de la Premier League après plusieurs années de désillusion. Je vous remercie.
Bonsoir, bonsoir Radio Foot International, c'est Issa Maïga d'Igix depuis Mali. Aujourd'hui, je vais donner un carton vert à Ole Gunnar Solskjaer qui est en train de bâtir une équipe formidable de Manchester United avec un Pogba qui revient avec force.
Bonsoir Radio Foot International, moi c'est Koulibaly Doulay depuis le Burkina Faso dans la région de Cascade. Je donne carton vert à Paul Pogba face à Berlin. Vraiment le seul but qui a fait qualifier Man United. Félicitations à lui. Je lui donne carton vert. Vraiment, bye bye, ciao.
Bonjour Radio Foot, je suis Bailon Zeke depuis Kinshasa. Je donne le carton vert au nouvel entraîneur des Standards de Liège et je pense qu'il fera mieux avec notre petit Moléka qui est là avec lui.
Bonsoir, c'est Badiaga Mamadou depuis la ville de Benoît en Côte d'Ivoire où je réside. Je dédie mon carton vert à Rémi Ngono parce qu'il est le meilleur et il restera toujours le meilleur devant Xavier Barré. Xavier, tu resteras toujours Barré devant Rémi Ngono.
Rémi qui est aux anges. Bon, évidemment, on peut pas passer tous les cartons qu'on reçoit, mais merci à tous ceux qui nous envoient leurs vidéos. C'est un plaisir de les regarder.
Tout sauf le dernier.
Tout sauf le dernier. Bon, allez, du coup, Xavier, à vous l'honneur. Quel est votre carton cette semaine? De quelle couleur est-il?
Alors moi, je vais mettre un carton vert d'encouragement aussi à la CAF et surtout à la jeune femme qu'ils ont désignée pour arbitrer, arbitre central lors de ce CHAN. Première fois que ça arrivera lors d'une compétition masculine sur le continent africain. Il s'agit de Lydia Tafese Abebe, une Éthiopienne. Et donc, elle va avoir l'honneur d'arbitrer tous ces messieurs. Et j'espère qu'ils auront à son égard une conduite galante et chevaleresque.
Je l'espère aussi. Rémi Ngono, à vous.
Alors, sur ma page Rémi Ngono, qui n'est plus Rémi Ngono officiel, parce que tellement les gens utilisent Rémi Ngono officiel, les pirates et tout, j'ai changé, c'est maintenant Rémi Ngono. Alors, il y a Abdirahman Mahamat Wadi, qui donne le carton vert à Gianni Infantino, le président de la FIFA, qui est arrivé au Cameroun pour le CHAN et qui est parti au palais présidentiel pour demander à Biya de venir renforcer l'équipe des Lions A'. Et il a offert le maillot numéro 9 à Paul Biya avec la couleur de Chelsea. Je ne sais pas si c'est pour aller jouer à Chelsea ou si c'est pour jouer au Lyon. Donc, nous tous nous attendons demain. Je peux vous annoncer déjà, puisque c'est le premier sportif camerounais, eh bien, Paul Biya sera bel et bien au stade, attaquant numéro 9 des Lions, grâce à Gianni Infantino.
Numéro 9, c'est ça, la décennie de son âge, c'est pour ça.
Merci pour cette annonce, Rémi Ngono. Alejandro Valente, votre carton.
Alors, c'est le même acteur, mais c'est une autre couleur. Hein. C'est un carton rouge à Gianni Infantino, et je dois dire que je me suis mis d'accord avec Annie Gasnier pour l'attribuer ensemble. C'est en raison d'une vidéo de promotion de l'Arabie Saoudite qu'il a tournée et qui aujourd'hui est mise en cause par des organisations des droits de l'homme, dont Amnesty International, qui trouve un peu choquant que le président de la FIFA se prête à présenter d'une manière dithyrambique l'Arabie Saoudite, alors qu'on sait quand même la situation qui règne dans ces pays en matière de droits de l'homme.
Ah oui, comme exactement aussi, la même chose qu'il est aussi parti faire au Cameroun. Je ne voulais pas juste mettre de la politique dedans, mais ça y est, parce que être quand même avec la situation qui règne actuellement au Cameroun et se faire... Bon, allez.
Cette semaine, le carton de Radio Foot est vert et il est pour Wayne Rooney. Le meilleur buteur de l'histoire de Manchester United vient d'annoncer qu'il mettait un terme définitivement à sa carrière de joueur. Et c'est d'ailleurs lui qui avait donné la victoire aux Mancuniens lors du dernier match qu'ils ont remporté à Enfield le 17 janvier 2016. Donc Wayne Rooney qui restera évidemment associé à jamais à Man U. 2004-2017 chez les Red Devils, 5 championnats d'Angleterre, une Ligue des Champions et une Ligue Europa. C'est le meilleur buteur de l'histoire du club, 253 buts en 559 matchs. Et donc il était entraîneur-joueur et il devient désormais manager à plein temps de Derby County. Il évolue, voilà, un club de championship et où il est depuis 2020. Donc Wayne Rooney, c'est un des attaquants de mon enfance, donc voilà, j'avais envie de lui donner.
C'est que lui qui a si bien porté les rouges prenne un carton vert.
Ouais. Exactement, exactement. Voilà, bon, il est temps de vous laisser. Un grand merci à Sarah Loubacouche, Pierre Guérin, Thibaut Baduel et Swahil Kedir pour leur aide aujourd'hui. Lundi, vous retrouverez Annie Gasnier qui animera Radio Foot depuis Douala au Cameroun. Très belle soirée et bon week-end sur RFI.